France Culture.
Des menaces contre la France. Une légion d'honneur pour Gisèle Pélicaud, celle qui est devenue un symbole féministe après le procès des viols de Mazan. C'est un symbole fort, mais un paradoxe, nous dira une association. Alors que le festival d'Avignon bat son plein, les compagnies du spectacle vivant, elles craignent pour leur survie, c'est ce que montre une étude publiée aujourd'hui. Et puis, eux aussi s'inquiètent pour leur avenir, les salariés de Voice of America, un média public mis à pied par Donald Trump en mars dernier. Nous irons aussi à Gaza, en pleine pénurie de carburant, du carburant pourtant indispensable pour faire fonctionner les hôpitaux. Enfin, reportage en Espagne où les autorités appellent au calme après des émeutes anti-immigrés. Emmanuel Macron prendra donc la parole dans une heure dans les jardins du ministère des Armées. L'Élysée promet ce soir des annonces majeures. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous.
Le président doit s'exprimer donc sur les efforts de défense. Concrètement, Nicolas, la défense c'est aujourd'hui une priorité pour l'exécutif.
Eh oui, alors que le Premier ministre François Bayrou annoncera des choix budgétaires douloureux mardi pour trouver 40 milliards d'euros d'économies, si l'on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a un ministère qui n'en fera pas, c'est celui des Armées. Et Emmanuel Macron va devoir expliquer pourquoi ce soir. Depuis quelques jours, l'exécutif monte au créneau pour préparer les esprits. Le chef d'état-major, vendredi, également dans une conférence de presse dite exceptionnelle pour évoquer la menace russe. La Russie a fait de la France sa principale cible, disait-il, et présente une menace durable. La conséquence, c'est Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui la donne dans la presse ce matin. Si l'on ne veut dépendre de personne, cela passe forcément par un effort nouveau, dit-il, pas seulement budgétaire, mais aussi intellectuel, moral et industriel. En quelque sorte, une révolution dans un environnement où les menaces sont multiples et protéiformes, dira très probablement Emmanuel Macron. L'Élysée rappelle que le budget de la défense est passé de 32 milliards d'euros à 50 milliards et demi d'euros entre 2017 et 2025, que la loi de programmation militaire prévoit une augmentation budgétaire annuelle d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Le chef de l'État, chef des armées, entend réviser cette programmation, loin des tourments de son Premier ministre.
Une précision signée Nicolas Ballu. Merci Nicolas. Gisèle Pélicaud recevra demain la Légion d'honneur. Elle fait partie de la traditionnelle promotion du 14 juillet. Gisèle Pélicaud, devenue une icône féministe après avoir refusé le huis clos lors du procès de ses violeurs. Alors qu'en pensent les associations? Que pensent-elles de cette distinction? France Culture a posé la question à Violaine de Philippis. Elle est avocate porte-parole de l'association Oser le Féminisme.
La Légion d'honneur, c'est un symbole fort et important. Néanmoins, il n'est pas sans paradoxe. Parce que finalement, c'est aussi oublier que l'État a une partie de responsabilité dans ce qui est arrivé. D'abord, parce que l'État ne met pas en place les mesures nécessaires pour réguler les plateformes. Je pense notamment à la plateforme Coco, qui a servi à la diffusion des appels au viol de Dominique Pélicaud sur Gisèle Pélicaud. Mais pas que. Je pense aussi au rôle de l'État dans l'éducation et la prévention. Puisque faut pas oublier que ce sont des hommes ordinaires qui violent. Alors certes, là, dans cette affaire, dans des circonstances extraordinaires, puisque la plupart des viols ne sont pas le fruit d'une préméditation et de plusieurs dizaines d'hommes sur une même femme, mais sont bien le fruit d'un seul homme, souvent dans la chambre à coucher, quelqu'un en qui on a confiance, qui peut être le concubin, le conjoint, parfois le nouveau petit copain. Ce sont ça les cas que je vois le plus régulièrement à la permanence droit des femmes que je tiens. Et c'est statistiquement ce qui ressort aussi des rapports. Donc je pense que pour une partie de l'opinion publique, c'est important que la Légion d'honneur soit remise à Gisèle Pélicaud. Maintenant, ça ne dupera personne.
Et avec Gisèle Pélicaud, 588 autres personnes seront récompensées demain, notamment l'historienne Mona Ouzouf. Un maire dépose plainte après avoir été agressé hier à Saint-Dié-les-Vosges. Bruno Toussaint a été pris à partie par un habitant, un ancien agent de la ville. Selon l'élu, l'homme était alcoolisé et se plaignait du non-renouvellement de son contrat par la commune. Il a d'abord bousculé l'épouse du maire avant d'asséner deux coups de poing à l'élu. Bruno Toussaint, qui a déjà l'année dernière a reçu une lettre de menace et contenant une cartouche d'armes de chasse. Le festival d'Avignon bat son plein et des records. Il n'y en a jamais eu autant de spectacles dans le off. Mais pendant que les théâtres se remplissent, les compagnies de spectacles vivants, elles, font grise mine et craignent pour leur survie. C'est ce que montre une étude dévoilée aujourd'hui, menée auprès de plus de 300 compagnies par l'APAS, l'association des professionnels professionnels de l'administration du spectacle en partenariat avec plusieurs syndicats du secteur. Cette étude dévoile les conséquences concrètes des multiples coupes budgétaires opérées dans la culture entre 2024 et 2025, puisque près de la moitié des collectivités locales et régionales ont réduit leur budget culturel et les compagnies voient leurs perspectives de diffusion s'effondrer, Julie Paco.
Durant la saison 2024-2025, les compagnies de spectacles vivants ont observé une baisse de 25% du nombre de dates vendues, accusant donc une perte de près d'un quart de leur activité. Et d'après la PASS, la saison prochaine s'annonce encore plus terne. Véronique Fellenbock est la coprésidente de l'association.
En fait, les perspectives pour 2025-2026, c'est 26% de diffusion en moins par rapport à la saison 2024-2025. Ce qui veut dire, et ça c'est vraiment un séisme pour nos professions, qu'on connaît en fait deux années successives avec un quart à chaque fois de diffusion en moins. Ce qui veut dire qu'en deux ans, on aura perdu quasiment la moitié de la diffusion des compagnies, c'est-à-dire en fait la moitié de notre chiffre d'affaires.
D'autant plus que 30% des représentations programmées par les théâtres la saison prochaine restent encore à confirmer. Les compagnies de spectacles vivants sont donc en voie d'effondrement, alerte l'association.
Les structures programmatrices subissent non seulement le poids de l'inflation, mais en plus le poids des baisses de subventions. Donc leurs saisons sont réduites, et puis le nombre de spectacles proposés est aussi réduit. C'est mathématique, à partir du moment où les structures programmatrices programment moins, les compagnies vendent moins de spectacles en fait.
Une baisse des financements publics qui touche aussi bien les structures programmatrices que les compagnies, la moitié d'entre elles déclarant une baisse de subventions entre 2024 et 2025.
On a deux cas de figure. On a les collectivités territoriales qui sont effectivement en incapacité de poursuivre leur politique culturelle et qui du coup essayent de faire des choix comme ils peuvent qui se traduisent toujours par des baisses. Et il y a aussi les collectivités territoriales qui souhaitent faire pression sur l'État pour montrer de façon lisible les soucis de ce désengagement et qui annulent tout en fait.
19% des compagnies interrogées envisagent ainsi de cesser leur activité dans les trois années à venir.
Un reportage de Julie Paco. C'est aujourd'hui la clôture du Festival international de journalisme à Couthures-sur-Garonne. Son ambition, rapprocher le journalisme des citoyens et interroger sur l'évolution des médias. Alors cette année, de nombreuses conférences ont été consacrées à l'Amérique de Trump. Et parmi les invités du festival, on trouve Jessica Jeritz. Elle est rédactrice en chef de Voice of America, un média public mis à pied par Donald Trump en mars dernier. Ce média, créé en pleine Seconde Guerre mondiale pour combattre la propagande nazie, était diffusé dans 49 langues et à travers le monde entier, Pierre Roper.
En mars dernier, du jour au lendemain, le média Voice of America a cessé d'émettre. Ce sont alors 1300 employés qui sont placés immédiatement en congé administratif, se rappelle Jessica Jeritz, la rédactrice en chef du média.
Une minute, nous étions à l'antenne et la minute suivante, plus rien. Nous n'avons même pas eu le temps de diffuser une émission ou un article web expliquant à notre public où nous étions. Nous diffusons en 49 langues, avec une audience hebdomadaire de 360 millions de personnes. Nous rencontrons notre public là où il a le plus besoin de nous. Nous ne diffusons pas aux États-Unis, mais en Russie, en Iran, au Tibet, au Vietnam, dans des pays qui n'ont pas une presse libre.
La raison invoquée par la Maison-Blanche pour justifier l'arrêt brutal de ce média et véritable outil de soft power américain, Voice of America ferait partie d'éléments inutiles de la bureaucratie fédérale et le média aurait un supposé parti pris de gauche, comprendre anti-parti républicain. Devant la justice, Voice of America s'appuie sur le premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté de la presse et d'expression pour contester la décision de la Maison-Blanche. Jessica Jeritz rappelle également que c'est au Congrès américain et non au pouvoir exécutif de déterminer le fonctionnement du média.
Nous savions en débutant l'année qu'il pourrait y avoir des changements et des attaques sur notre indépendance. Mais je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à être à ce point réduit au silence. Nous ne sommes pas autorisés à aller au travail, à aller en salle de rédaction. Donc, maintenant, nous sommes en procès. Et un des juges a demandé aux avocats du gouvernement comment cela peut-il être la voix de l'Amérique si elle est silencieuse.
Selon la journaliste, l'un des enjeux a également été de faire comprendre au public l'intérêt d'un média international qui n'est pas diffusé aux États-Unis tout en étant financé par l'argent des contribuables. Pour Jessica Jeritz, le public commence aujourd'hui à comprendre la nécessité de défendre les médias publics alors que NPR et PBS, la radio et la télévision nationale, sont à leur tour menacés de lourdes coupes budgétaires.
Il y a déjà des comparaisons avec certains des défis que nous avons constatés ailleurs, comme en Hongrie ou dans d'autres pays autoritaires, où l'on commence par qualifier les médias d'ennemis du peuple, puis on les poursuit en justice. Lorsque vous faites le récit de journalistes qui ont déjà vécu ça et qui commencent à vous dire « j'ai déjà vu cela auparavant », vous écoutez.
Pour la rédactrice en chef de Voice of America, la Maison-Blanche, en supprimant l'accès au bureau Oval ou à Air Force One pour le média Associated Press, a envoyé un message inquiétant. Certaines voix ne peuvent plus être entendues et certaines questions ne peuvent plus être posées. Pour elle, il est important que les éditeurs et propriétaires de médias soutiennent leurs journalistes.
Nous entrons peut-être dans une période où dans les démocraties, il est important de tenir bon. Si une personne pose une question et qu'elle est ignorée, alors le prochain journaliste appelé devrait essayer de poser la même question. Nous devons nous soutenir mutuellement et montrer que nous n'allons pas céder ni cesser de poser ces questions troublantes. Parce qu'en fin de compte, ces attaques ne visent pas seulement les journalistes, mais aussi le droit du public à savoir. Et si vous considérez le journalisme comme la pierre angulaire de la démocratie, alors, si vous commencez à le saper, il sera plus facile de saper tout le reste, car il n'y aura plus personne pour dire aux gens ce qui se passe.
Au mois de mai, le gouvernement américain a rétabli 3 des services linguistiques de Voice of America en Iran, en Chine et en Afghanistan. Mais le média reste amputé de ses effectifs. Il est passé de 2300 heures de programmation par semaine à moins de 2.
Une nouvelle flottille pour la liberté en route vers Gaza, partie aujourd'hui de Sicile, un peu plus d'un mois après l'interception par Israël d'un précédent bateau avec à bord notamment Rima Hassan et Greta Thunberg. Ce navire transporte de l'aide humanitaire vers l'enclave, du matériel médical, de la nourriture, des médicaments, autant de choses qui manquent cruellement à Gaza. Tout comme le carburant, 7 agences de l'ONU alertent sur la pénurie de carburant qui atteint selon eux un niveau critique. Or ce carburant est indispensable pour alimenter notamment les hôpitaux. Le système de santé à Gaza est au bord de l'effondrement. Reportage à l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza de Rami Al-Maghari avec Thibault Lefebvre à Jérusalem.
400 patients sont soignés en ce moment même à l'hôpital Al-Shifa, alors qu'il ne reste que 130 lits. Il y en avait 6 fois plus avant la guerre. Le plus grand établissement de l'enclave manque de tout et surtout de carburant. Ziad Abou Emidan est le directeur technique. Il est au micro de Rami Al-Maghari.
Il y a quelques jours, une patiente est décédée lors d'une opération du cœur au bloc opératoire. C'était à cause d'une panne brutale du petit générateur que nous utilisions. Le gros générateur était lui en panne. Le personnel médical a dû utiliser des lampes LED et des téléphones. Le personnel technique a fait ce qu'il a pu, mais nous étions impuissants. Il nous a fallu 15 minutes pour intervenir, mais c'était trop long et la patiente est morte. Elle avait besoin d'un respirateur artificiel, mais tout a cessé de fonctionner à ce moment-là. On a remplacé les batteries, mais ça n'a pas suffi.
L'OMS a livré la semaine dernière 3000 litres de fuel à Al-Shifa, juste ce qu'il faut pour tenir quelques jours. Sur les 36 hôpitaux de Gaza, seulement 14 fonctionnent encore partiellement.
Reportage de Rami Al-Maghari et Thibault Lefebvre. L'Union européenne ne ripostera pas aux droits de douane imposés par Donald Trump, du moins pas immédiatement. Hier, le président des États-Unis a décrété des taxes, 30% sur l'ensemble des produits européens à partir du 1er août. Eh bien, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, décide donc de continuer à négocier et donc de ne pas enclencher de représailles avant le début du mois d'août. Des émeutes anti-immigrés dans le sud-est de l'Espagne, à Torre Pacheco. Nous sommes en Murcie, on compte déjà plusieurs blessés dans ces affrontements qui se sont produits après l'agression d'un retraité espagnol en milieu de semaine. Les détails avec Marie-Hélène Ballestero.
Tout a démarré mercredi dernier. Domingo, retraité de 68 ans, se promène comme chaque jour à l'aube lorsqu'il se fait violemment agresser sans motif, selon lui, par 3 jeunes maghrébins. Depuis, la tension n'a fait qu'augmenter dans cette petite ville de la province de Murcie, notamment suite aux appels à la haine qui ont circulé sur les réseaux ces derniers jours. Résultat, pour la 2e nuit consécutive, Torre Pacheco a vécu des émeutes contre des immigrés. Une flambée de violence condamnée aujourd'hui par le président régional, le conservateur Fernando López Miras.
Les responsables de ces agressions seront traduits en justice, mais il faut faire confiance aux forces de sécurité de l'État ainsi qu'à la loi. Nous devons compter sur eux pour garantir l'ordre. Je veux lancer un appel au calme. Les habitants de Torre Pacheco veulent vivre en paix et ils veulent vivre ensemble, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Et les appels à la violence auxquels nous assistons de part et d'autre ne peuvent être autorisés ni tolérés.
Torre Pacheco espère retrouver la normalité. C'est le souhait des autorités. Le maire de la ville, Pedro Ángel Roca, du Parti populaire également, a souligné que la plupart des habitants de Torre Pacheco souhaitent vivre en paix et que la violence ne se combat pas par la violence.
Reportage en Espagne de Marie-Hélène Ballestero. La météo pour ce soir, des orages sur le Pas-de-Calais, le nord de la Normandie et l'Île-de-France, un temps orageux aussi autour de Lyon. Demain matin, on aura du soleil sur la Corse, les plaines du Roussillon et la PACA. Ailleurs, le ciel sera souvent nuageux. Il est 18h15 sur France Culture. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau. À la technique ce soir, Olivier Arnay.